19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est par un extraordinaire choc que sonna la fin précipitée de la civilisation celtique, l'entrée prématurée de la Gaule dans l'histoire. Ce combat de titans, nous l'avons appris comme s'il était nôtre, lu et relu à la lumière des catastrophes du XXe siècle, de notre propre histoire contemporaine, tout à la fois sublime désastre et atroce victoire. L'affrontement de Vercingétorix et de César est bien entendu dans toutes nos mémoires. Mais comment un pays d'une telle richesse, d'une telle puissance, put-il s'effondrer? D'ailleurs, qui en furent les responsables? C'est dans cette enquête que le magazine d'archéologie de France Culture se plonge ce soir avec Laurent Olivier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vercingétorix est-il à Camille Julien ou à Jean-Louis Bruno ce que César est à Jérôme Carcopino et Christian Goudineau? Tous leur ont consacré au moins un livre, parmi tant d'autres, oubliés ou non de l'histoire. Daniel Porte, Yves Chaffray, Pierre Combe et Max Gallo, Alain Débert ou Jean Marcal. Aujourd'hui, César contre Vercingétorix, paru aux éditions Belin, s'avère une véritable enquête. Car pour vous, Laurent Olivier, le but de l'histoire n'est pas de raconter ce qui s'est passé, mais bien de mener cette enquête. Archéologue, conservateur en chef du patrimoine, en charge des collections celtiques et gauloises du musée d'archéologie nationale, là même où sont conservées les reliques de l'affrontement d'Alésia, votre position est donc centrale dans ce dossier d'instruction. Remontons le temps. Pourquoi cette agression injustifiée de la Gaule? L'ambition inflexible d'un homme? N'est-ce pas d'ailleurs une erreur, la première faute de César?
En tout cas, c'est la faute qui va le poursuivre pendant toute sa vie, puis bien au-delà de son existence. En réalité, comme vous le rappelez, César, qui est gouverneur de la Gaule Narbonnaise, n'a aucun espèce de mandat de l'État romain pour mener quelque guerre que ce soit au nom de Rome. Surtout d'attaquer des gens qui sont amis du peuple romain de sa propre initiative. En fait, César mène une politique personnelle. Il a compris que la guerre est le moyen d'amener l'argent, et l'argent est le moyen d'augmenter la guerre et d'augmenter le prestige.
Et Cicéron le dira même le 15 mars de l'an 60, donc 2 ans avant. Le plus grave en ce moment, c'est une crainte avec les Gaulois.
Oui, alors c'est très intéressant parce que en fait, César, il y a toute une histoire avant César. Son oncle, du côté de sa tante Julia, le mari de Julia, c'est Marius, le grand Marius, qui a défait les barbares celto-germains en 101 avant Jésus-Christ et qui a donc permis la conquête de la Narbonnaise. En fait, César est dans cette tradition-là. En fait, il est quelqu'un qui va marcher sur les traces de son grand ancêtre.
Et puis, de toute manière, il lui faut quitter Rome. Et d'ailleurs, Rome, il n'y reviendra pas beaucoup.
En fait, il est perclus de dettes. Il a engagé énormément d'argent qui n'est pas le sien. Il a engagé des procès. Il s'est mis aussi du côté de ce qu'on appelle à l'époque les populares, un peu le parti du peuple contre le parti des riches, incarné par Marius, qui avait été pourchassé et qui avait dû se réfugier. Et en fait, il a énormément d'ennemis politiques. C'est pourquoi, dans chacune de ses campagnes, il ne rentre jamais à Rome. Il s'installe en Gaule cisalpine. Il passera le pas quand il franchira le Rubicon et qu'il dira « Aléa, Jactaes », sa fameuse formule.
Nous voici en 58 avant notre ère. Curieusement, Vercingétorix arrive très tard dans la guerre des Gaules, durant le soulèvement de janvier 52, peut-être un petit peu avant, on va dire l'année 53.
En fait, il commence à apparaître à l'hiver 53-52 avant Jésus-Christ. Et c'est tout à fait étonnant parce qu'on ne suit son existence que pendant 9 mois, en gros de l'hiver 53-52 jusqu'à l'automne d'Alésia. On ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé après jusqu'à son exécution en 46 avant Jésus-Christ au moment du triomphe de César.
En tout cas, il n'a aucune raison d'intervenir, puisque les Arvernes sont alliés des Romains.
Oui, alors il faut revenir sur cette géopolitique. En effet, les Arvernes étaient, avant l'intervention des Romains en Gaule méridionale, c'était la grande puissance centrale gauloise. En fait, à la suite de l'annexion, j'allais dire, de la Narbonnaise à Rome, les Arvernes sont en perte de vitesse. C'est les Éduins qui deviennent la plaque tournante politique et les partenaires des Romains. C'est probablement à partir de ce moment-là qu'ils sont déclarés amis frères consanguins du peuple romain. Et donc les Arvernes probablement sont liés par un traité qui est un traité de non-intervention du côté arverne avec les Romains. Ce qui explique probablement que pendant toutes les premières années de la guerre, les Arvernes sont liés à César, en tout cas ils ne peuvent pas se lever contre lui. Et effectivement, c'est Vercingétorix qui rompt en quelque sorte cette alliance passée qui a plus d'un siècle d'existence.
Et qui est Vercingétorix ?
On connaît quasiment rien de lui, c'est son nom est désigné en 3 ou 4 mots dans le texte de César, Vercingétorix Arverne, fils de Celtios. Celtios, qui avait tenu le pouvoir et qui avait été exécuté par ses compatriotes, dit César, pour avoir voulu restaurer la royauté. Donc on apprend à ce moment-là que, en fait, les Arvernes sont dans un régime politique de type sénatorial. Ils ont mis fin à la royauté traditionnelle des peuples gaulois.
Mais justement, Vercingétorix l'aura, cette royauté ?
Exactement. C'est toute l'ambiguïté du personnage, parce qu'en fait, Vercingétorix, et c'est ce qui a fait dire à certains qu'il était dans une position réactionnaire, veut en quelque sorte restaurer l'ordre ancien gaulois. Il veut restaurer la royauté, il veut restaurer un pouvoir qui, déjà, est relativement miné à l'époque où César intervient en Gaule.
Est-ce que César parle beaucoup de Vercingétorix dans ses commentaires ?
Il le cite 40 fois dans le dernier livre qu'il écrit lui-même, qui est le livre 7. Et en fait, c'est tout à fait intéressant, parce qu'on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce qu'il le cite beaucoup parce que Vercingétorix est très important, parce que c'est vraiment le pivot de la guerre, ou bien est-ce qu'il le cite beaucoup parce qu'il veut en faire son adversaire personnel et en quelque sorte montrer qu'il a vaincu un ennemi qui était à sa hauteur.
Qu'en est-il pour vous ?
Je pense que c'est trouble. Je crois qu'en réalité, il y a évidemment plein d'autres personnages dans la guerre des Gaulois dont César ne parle pas. Il transforme ça en un affrontement personnel, lui contre Vercingétorix. Et en même temps, dans le personnage de Vercingétorix, il y a une ambiguïté en réalité. En fait, on ne sait pas exactement qui il est. C'est visiblement quelqu'un qui a tiré parti des méthodes de la guerre romaine, parce que c'est la première fois tout de même où les légions de César sont mises en sérieuse difficulté. Et ça, visiblement, c'est Vercingétorix qui est responsable de ça.
Cet auteur ont évoqué Vercingétorix, cet auteur bien sûr antique.
Si on essaye un petit peu de démêler la généalogie de l'histoire de Vercingétorix, le premier grand témoignage, c'est César. Et puis ensuite, on voit apparaître des témoignages postérieurs qui s'appuient sur des sources différentes. Le premier, c'est Plutarque, qui écrit dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis, on a un auteur qui amène, on pourrait dire, un scoop total, une révélation, qui s'appuie sur des sources qu'on ne connaît pas, qui est Dion Cassius, donc au milieu du 3e siècle après Jésus-Christ, qui révèle un certain nombre de choses qui n'étaient pas connues dans le texte de César. Par exemple, que la guerre des Gaules s'était pas passée de manière aussi facile que César ne le raconte, qu'Avaricum avait été une véritable catastrophe du point de vue romain, que Gergovie avait été un échec lamentable, et puis surtout que César et Vercingétorix n'étaient pas les deux grands ennemis qu'on avait dit, qu'ils étaient amis. En fait, et que c'était pour ça que Vercingétorix était venu se rendre de lui-même en espérant que son ancien ami lui pardonnerait cette incartade.
Oui, mais les données de Don Cassius sont tardives.
Extrêmement tardive. Alors toute la question qui a divisé les historiens, c'est sur quelle source s'appuyait Dion Cassius ? Parce que Dion Cassius dit, j'ai écrit cette histoire de Rome en m'appuyant sur tous les auteurs, j'ai travaillé pendant 20 ans, donc j'ai dû élaguer quelque peu, mais je me suis appuyé sur des sources différentes de l'histoire romaine. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès le moment où la guerre des Gaules est publiée et rendue publique à Rome, c'est un texte d'auto-justification. César dit, en réalité, non, j'ai suivi aucune aventure personnelle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'intérêt et la sécurité de Rome. Et d'ailleurs, si je l'avais pas fait, on aurait pu très facilement me rappeler et puis me retirer mes légions. Personne ne l'a fait. Et en fait, je n'ai fait qu'agir pour défendre les intérêts romains. En réalité, dès le moment où ce texte sort, ce texte suscite la suspicion, en réalité. Et on a d'autres auteurs dont, malheureusement, les textes ne se sont pas conservés. Quelqu'un comme Pollion ou quelqu'un comme Tubero, qui sont des jeunes historiens de l'époque de César, qui visiblement avaient des versions un petit peu différentes, qui reposaient sur d'autres témoignages qui n'étaient pas ceux de César. Et donc qui donnent des versions alternatives de cette histoire de la Gaule. En fait, ces versions différentes de l'histoire de César, à la fois elles sont pas crédibles, parce que c'est pas crédible qu'un vaincu se livre en armes tout seul. Saddam Hussein ne s'est pas livré au volant de sa fourgonnette blindée, Hitler ne s'est pas livré avec un char devant Staline, hein. ça se passe pas comme ça les redditions. Donc la reddition de Vercingétorix, elle est absolument pas crédible. Mais en même temps, les sources ou les indications sur lesquelles s'appuie Dion Cassius, elles sont vraisemblables. Ce qui fait que, en fait, on est dans une espèce d'indécision en réalité sur cette histoire de Vercingétorix.
Alors justement, certains chercheurs écrivent même que Vercingétorix aurait pu, durant un temps, être une sorte de petit prince otage de César. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est vraisemblable, parce que si Si on imagine que la version de Dion Cassius repose sur des indications historiques véridiques, c'est vraisemblable dans la mesure où les Alliés avaient passé de gré ou de force traité de non-intervention avec les Romains. Et donc, on retrouve là quelque chose qui est très fréquent, c'est la politique des otages. On est amis, n'est-ce pas, entre Gaulois et Romains. Donc, si on est amis, vous allez nous passer votre fils, c'est bien, bien évident. Sous-entendu, si vous retournez votre veste, vous savez ce qui arrivera à votre cher fiston. Et de votre côté, il est bien évident que jamais vous allez trahir votre parole. C'est une manière de vérifier que les choses sont bien en ordre. Donc ça, cette politique d'otage, elle est tout à fait vraisemblable. Elle est indiquée indirectement dans le cours de la guerre des Gaules, parce qu'on vient de dire à l'instant, c'est le fait que c'est la première fois que Vercingétorix met vraiment en difficulté les armées romaines, parce que visiblement, il les connaît de l'intérieur, ou du moins, il sait qu'est-ce qu'il faut adopter comme tactique face au rouleau compresseur que représente l'armée romaine.
Donc il aurait même servi dans les armées romaines.
Moi je pense que c'est vraisemblable. Et je pense que son expérience, il l'attire en tout cas d'une proximité avec la stratégie romaine.
Cette politique d'otage est une pratique courante durant l'Antiquité ?
Oui, tout à fait. C'est une politique d'alliance qu'on trouve très répandue chez les Gaulois en particulier. Mais pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, il y a un élément qui est tout à fait intéressant, c'est au moment du siège d'Avaricum. Je m'appuie sur les travaux de Sophie Cross, qui a travaillé là-dessus et qui amène des résultats, je pense, nouveaux et très très intéressants.
Et puis le fameux site de Châteaumaillant.
Tout à fait.
Je suis bien sûr allé voir pour faire l'émission.
Absolument. On a l'impression que dans cette région-là, il y a des ingénieurs militaires qui ont compris la tactique à adopter face à cette technique qui, pour l'instant, est totalement invaincue, qui est celle des rampes d'assaut des Romains. Les remparts de type Murus Gallicus sont totalement pas prévus pour ce genre d'attaque. D'où les remparts massifs, mais aussi d'où le moment où, quand il y a le siège d'Avaricum, visiblement, on voit que les Gaulois mettent en œuvre des techniques qui sont décrites par les auteurs d'ouvrages stratégiques grecs. Comme par exemple l'idée de surmonter le rempart au fur et à mesure que les tours s'approchent du rempart, équiper les remparts de couvertures de peau qui sont destinées à éviter qu'on envoie des traits enflammés. Tout ça, c'est complètement nouveau dans la stratégie gauloise. Et visiblement, c'est une hypothèse qui est vraisemblable, il y a des instructeurs qui sont près d'eux, des gens qui connaissent et qui leur expliquent comment il faut faire pour s'adapter aux techniques d'assaut romaines. Et au moment d'Alésia, César dit que les Gaulois ont des machines. Alors, il ne dit pas exactement quel type de machine. Il dit des moyens qui permettent de repousser les techniques de siège. Mais visiblement, les Gaulois ont compris. Ils se sont adaptés aux techniques de combat romaines.
Vous me parliez là d'Avaricum. On est chez les Bituriges. Bourges.
Oui.
Ça va être
oui.
Une défaite terrible.
Alors, une défaite terrible pour les Gaulois. Mais justement, Dion Cassius amène un complet renversement de situation. Parce que Dion Cassius explique, pour les lecteurs de la guerre des Gaules, c'est lié à cette idée nouvelle que Vercingétorix va mettre en place la technique de la terre brûlée. C'est-à-dire, les Romains ne doivent plus trouver nulle part de fourrage pour leurs animaux, ils ne doivent plus trouver nulle part de blé, donc il faut incendier toutes les fermes et tous les villages de manière à ce qu'ils meurent de faim et à ce que, quand ils vont assiéger Avaricum, en fait, ils finissent par être épuisés et donc on les attaquera à revers, on les écrasera. Et en fait, cette tactique-là, dans le récit de César, c'est un échec, puisque Avaricum finit par tomber. Mais ce qu'explique Dion Cassius, c'est que c'est le contraire, en fait. C'est que c'est César qui se jette sur l'appât que constitue Avaricum, et c'est César qui est lui-même assiégé, c'est-à-dire il se retrouve tout seul, en plein territoire gaulois, coupé de toute mesure d'approvisionnement, de tout vivre. Et en fait, c'est par un retournement de situation, c'est par un hasard de la guerre, qu'Avaricum tombe. Mais pas à cause de la supériorité technique et tactique romaine.
Avaricum, Gergovie, Alésia, on connaît bien sûr les batailles. Les commentaires de César sont une véritable machine de guerre. Ne faut-il pas désacraliser ce texte ?
Alors, il y a deux auteurs que je trouve extrêmement importants dans l'historiographie de la guerre des Gaules. Il y a Camille Julien. Le premier, Camille Julien comprend qu'il y a des masques dans le texte de César. C'est-à-dire, il comprend que quand César fait des digressions, en fait, c'est pour masquer des échecs. Il comprend aussi qu'il déplace l'ordre chronologique des événements pour que ça ait l'air à son avantage. Par exemple, il transcrit, j'allais dire, en temps réel, les conciliabules des Gaulois. Donc ça sous-entend l'idée qu'il est au courant. Or, en réalité, il n'en est averti qu'à posteriori. Et puis, le deuxième grand auteur, c'est Michel Rambeau, qui fait un vrai travail, j'allais dire, d'archéologie du texte, et qui montre comment le texte, en réalité, a plusieurs couches. C'est construit à base, d'abord, des rapports de l'armée, et des rapports que César devait envoyer tous les ans au Sénat. Et puis, il montre qu'il y a des éléments de liaison entre le texte, il y a des éléments de discours, et puis il y a surtout un phénomène de construction des événements. C'est-à-dire que les événements ne sont pas dans leur ordre chronologique normal. Et que quand les événements sont en quelque sorte déboîtés les uns des autres, c'est en général pour expliquer des erreurs ou pour amener le lecteur à penser que César contrôle parfaitement la situation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Laurent Olivier, en 46 avant notre ère, l'assassinat de Vercingétorix n'est-il pas une autre faute de César, puisque le premier s'était rendu?
Oui, alors c'est tout à fait fascinant, parce que c'est la faute qui va lui être reprochée, j'allais dire, au cours des temps. Et vous allez voir que dans ce qu'on appelle les auteurs de la seconde tradition, c'est-à-dire les gens, les historiens romains qui vont reprendre cette histoire après César, donc on en a parlé plus tard, Dion Cassius et les autres, en fait on va voir une évolution du personnage de Vercingétorix, de traître, de vaincu, de barbare qui s'est révolté contre l'autorité romaine. Il va devenir en quelque sorte victime, puisque en fait, il s'était rendu de lui-même, et donc il devait être gracié. Et en fait, ça va s'exercer au détriment de l'image de César. César a fait une erreur en l'exécutant. Et puis sa mort sera atroce. Mais par parenthèse, il fallait absolument le maintenir en bonne santé et vivant jusqu'en 46, donc pendant 6 ans. Donc, contrairement à ce que a imaginé la tradition historique, il n'a pas été enfermé au Tullianum pendant 6 ans dans cette prison atroce. Il a probablement été en résidence surveillée parce qu'il était important qu'il apparaisse au triomphe derrière le char de César. S'il était mort d'inanition ou de famine auparavant, ça aurait complètement gâché la fête. Donc il était très important qu'il soit là. Et puis à partir du moment où politiquement il n'était plus utile à César, César l'a éliminé. Ce qui est une faute qui lui sera reprochée, j'allais dire, jusqu'à Napoléon III.
La reddition, la dévotio, le dépôt des armes, voici une scène absolument totalement invraisemblable. On a le choix de l'imaginer arriver enchaîné ou tout au contraire sur son cheval paré de phalaires et tournant en cercle autour du futur empereur. Qui croire ? Peut-être ni l'un ni l'autre d'ailleurs.
C'est très difficile parce que, en fait, si vous n'avez pas de parti pris, et dans cette histoire, j'ai essayé de ne pas en avoir. J'ai essayé de regarder quelles avaient été les différentes couches d'interprétation qui s'étaient superposées sur cette histoire et de regarder comment elles fonctionnaient, en quelque sorte, les unes au travers des autres. En fait, ces deux versions, elles sont à la fois autant défendues par des historiens aussi respectables et savants les uns que les autres. Et elles reposent aussi sur des arguments historiques aussi acceptables les uns que les autres. Donc on est, et c'est tout à fait intéressant, on est dans un état d'indécidabilité de l'histoire. C'est-à-dire que en réalité, on ne sait pas comment ça s'est passé, et il est très difficile de le savoir.
Tombé dans l'oubli, l'histoire a fait Vercingétorix une sorte de phénix. Le voici qui renaît de ses cendres autour 1600 ans après, et puis surtout bien sûr au 19e avec des historiens comme Michelet, Thierry, Martin.
Alors pendant longtemps, le texte de César est lu, il n'a jamais cessé d'être lu, c'est ça qui est fantastique.
Mais par des militaires.
Oui, mais aussi par des... c'est un manuel d'éducation, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'est lu par les grands pour apprendre à comment mener des guerres victorieuses, comment se comporter avec les ennemis qui vont devenir les alliés de demain, comment gouverner en quelque sorte. Et en réalité, Vercingétorix commence à renaître à partir du moment où on se dit, et le tournant c'est très intéressant, il est dans le 18e siècle, on se dit mais... On n'est pas uniquement des Francs, par exemple. On n'est pas uniquement des Romains. Les nobles qui nous gouvernent n'étaient qu'une poignée, dit Voltaire. En fait, la majorité de la population, elle est gauloise. Donc, on peut imaginer écrire une autre histoire qui serait une histoire qui serait vue non pas du point de vue des Romains, mais du point de vue des Gaulois, du point de vue de la nôtre. Et c'est à ce moment-là, effectivement, avec des historiens comme Amédée Thierry ou Henri Martin, que le personnage de Vercingétorix devient... j'allais dire un véritable héros du peuple, c'est le défenseur de la liberté, c'est un héros romantique, c'est celui qui meurt parce que il croit à son idéal, il est prêt à aller jusqu'au bout, même s'il doit en mourir.
Vercingétorix, on en fera le premier des Français, le précurseur de Jeanne d'Arc, mais il aura aussi un suiveur, Abdelkader, prisonnier de Napoléon III.
Alors une histoire fantastique, oui, que je raconte dans le livre, qu'on a totalement oublié. Ça, c'est tout à fait lié au personnage de Napoléon III, qui se cherche en quelque sorte un héros tutélaire. Il avait pensé un moment à Charlemagne, et il se dit César. Et en fait, ce qu'il entend montrer, c'est que dès que les peuples ont un empereur, nous, avec Jules César, les Français avec lui, on fait un bond en avant dans la modernité.
C'est le césarisme.
Tout à fait. Et il utilise la personnalité d'Abdelkader pour en faire le Vercingétorix algérien. Comme Vercingétorix, Abdelkader s'est battu bravement contre les Français. Il a accepté sa défaite. Napoléon III ne l'exécute pas, le gracie au contraire, lui donne une bourse pour qu'il puisse vivre aisément, et en fait on fait de cette image l'espoir d'une future symbiose du peuple algérien et du peuple français, comme il y aurait eu, je mets bien aurait eu au conditionnel, une symbiose du peuple romain et du peuple gaulois qui aurait fait la civilisation gallo-romaine. Donc cette défaite finalement est bénéfique. Et cette idée que, en fait, heureusement qu'on a perdu la guerre des Gaules, parce que sinon, si on l'avait gagnée, Rome n'aurait jamais eu cette grande civilisation qui aurait nourri l'Europe, et la France elle-même n'aurait pas pu se développer.
Vercingétorix va aussi devenir l'enfant de la patrie.
Alors ça, c'est Julien qui fait de Vercingétorix un héros patriote. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que là encore, c'est les événements du présent qui changent cette idée-là. C'est-à-dire que cette défaite positive, le fait qu'on soit annexé par un grand empire et puis qu'on accède finalement à la civilisation... On en a l'expérience directe en 70, on est annexé par un grand empire, l'empire allemand, et on se rend compte que c'est pas aussi positif que ça, la défaite. Et en fait, Vercingétorix devient le héros qui défend la patrie, c'est un héros patriote. Et il retrouve une épaisseur d'autant plus grande avec 14-18, où là, Vercingétorix, c'est carrément le poilu qui combat avec ses frères de tranchée contre la domination étrangère.
Laurent-Olivier, ce qui est très intéressant, c'est que Camille Julien présente un Vercingétorix qui pense et qui réfléchit.
Alors ça, c'est formidable, parce que justement, Vercingétorix, chez Camille Julien, accède à une épaisseur psychologique qu'il n'avait pas vraiment chez ses prédécesseurs comme Martin ou comme Thierry. Et il le fait avec une technique, je trouve, fascinante. Il appelle ça « solliciter les textes ». C'est-à-dire, il le dit lui-même, il cherche dans une phrase... l'idée, il cherche la pensée, il cherche les motivations, il cherche à comprendre comment les gens pensent. Et ce qui est fantastique dans son Vercingétorix de 1901, je trouve est un chef-d'œuvre, c'est admirable, c'est merveilleusement écrit. C'est splendide. Oui. Et en fait, il nous donne accès à un Vercingétorix sensible. On le touche presque.
Vercingétorix, Vichy, c'est bien sûr Gergovie.
Alors c'est surtout dans l'esprit des idéologues de Vichy, 1940, répétition de 52. On s'est battu bravement, mais on accepte notre défaite. Et puis le grand général vaincu, Vercingétorix, Pétain, fait le don de sa personne à la patrie. Et Gergovie, évidemment, ça mérite d'être réévalué. Donc on ne commémore plus la victoire contre les Romains, on ne commémore plus cette fameuse inscription qu'il y a sur le Vercingétorix de Bartholdi à Clermont-Ferrand. « J'ai pris les armes pour défendre la liberté ». Elle est masquée par un coffrage en bois sous le régime de Vichy. On veut plutôt honorer le chef, celui qui réunit tous les Français. Et c'est l'occasion de faire une cérémonie qui est aujourd'hui largement oubliée, qui est une cérémonie de remise des terres. Tous les représentants des différents peuples de l'Empire français viennent déposer une parcelle de terre dans le cénotaphe dédié à Vercingétorix.
Extraordinaire passage que j'ai bien sûr réutilisé à maintes reprises. On assistera à une sorte de déconstruction du personnage de Vercingétorix dans la seconde moitié du XXe siècle.
Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'en 4 ans, Vercingétorix passe du statut de collaborateur idéal à celui de, naturellement, premier résistant, premier maquisard. Dans les manuels destinés à l'enseignement scolaire, vous voyez cette frise des grands personnages historiques qui commence avec Vercingétorix et qui se finit avec Pétain jusqu'en 1944. Et puis à partir de 1945, vous avez la même frise, mais c'est De Gaulle qui remplace Pétain.
Aujourd'hui, Vercingétorix n'est-il pas l'homme de la guérilla urbaine, un autonome, l'inventeur des méthodes des Black Blocs?
Alors, le personnage de Vercingétorix, il est complètement réévalué, je pense, avec l'expérience des guerres coloniales, l'Indochine, la défaite de Dien Bien Phu, les guerres du Vietnam. Et on comprend qu'en fait, il utilise les techniques de la guérilla moderne dans sa lutte inégale contre les Romains.
Notamment à Vericum. La politique de la terre brûlée.
Tout à fait. La tactique du marteau et de l'enclume, faire s'agglomérer l'ennemi et puis l'écraser l'extérieur par une marée humaine qui vient les submerger. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le personnage de Vercingétorix, il est flexible, il n'arrête pas d'évoluer. Dans les récente manifestation des Gilets jaunes, il y a sur un rond-point au pied de Gergovie, il y avait cette inscription « Ici, Vercingétorix a défait Jules César, refaisons l'histoire ».
Formidable. On a souvent dit que Vercingétorix était un chef exécrable, ce ne serait pas le cas.
Alors, il y a une réévaluation complète. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que cette réévaluation complète, elle vient des historiens militaires qui sont intéressés à une chose qui finalement avait toujours été vue un petit peu de manière secondaire, c'est les tactiques. Et effectivement, c'est tout à fait clair, c'est les travaux en particulier d'Alain Débert, on voit très bien que Vercingétorix, c'est quelqu'un qui maîtrise les techniques de la guérilla et qui non seulement les maîtrise, mais apprend.
Puisque vous êtes archéologue, Laurent-Olivier, existerait-il des points communs entre documents historiques et vestiges archéologiques ?
D'une manière paradoxale, c'est le même genre de choses. C'est-à-dire que c'est aussi des objets, j'allais dire, des objets stratifiés. Les documents historiques, en fait, ils ne sont plus compréhensibles dans l'état tel qu'ils étaient lus au moment où ils ont été fabriqués. Et en fait, ils ont chaque fois relu dans le présent dans lequel ils sont interprétés. Et en réalité, ils se chargent de manière extraordinaire avec le personnage de Vercingétorix, il se charge en quelque sorte de couches d'interprétations successives qui ne se remplacent pas les unes les autres, qui s'accumulent.
Laurent-Olivier, combien de vies Vercingétorix aurait-il pu avoir ?
Au moins 9 vies, hein, au moins celle des chats. Il en a eu toute une série, il a même eu des vies complètement contradictoires. Dans un cas, il est celui qui défend la patrie, dans l'autre cas, il est celui qui permet la défaite de la Gaule et en quelque sorte une sorte de collaborateur de César. Aujourd'hui, c'est une sorte de guérillero, c'est un héros du peuple. En fait, je dirais que Vercingétorix n'est pas mort et qu'il ne va pas cesser de continuer à évoluer. Il est en train de se transformer aujourd'hui, mais on ne sait pas quelle forme il va prendre.
Vous écrivez, Vercingétorix est en cavale, et ce sont les gardiens de la mémoire romaine qui l'ont aidé à s'échapper. Ses complices sont donc bien sûr Plutarque et Dion Cassius. Mais s'il s'échappait, il serait où aujourd'hui et que ferait-il ?
Je pense que c'est fondamentalement un héros qui défend la liberté, qui défend la liberté d'être. Et ça, je pense que ça en fait un héros absolument intemporel. À chaque fois qu'il y a des luttes, qui sont des luttes pour la liberté, et qui sont des luttes qui engagent la collectivité, Vercingétorix ne peut pas être absent, il arrive à la rescousse.
On le sait, le passé est plein de trous, les historiens tentent donc de les combler, de supposer. N'y aurait-il pas d'ailleurs une part de fiction au sein de cette histoire, au sein même de l'histoire ?
Oui, alors ça dépend ce qu'on entend par fiction. Est-ce que la fiction, c'est l'imaginaire, c'est l'invention, c'est le rêve ? Moi, j'ai une autre idée de la fiction, c'est que la fiction, c'est l'effet de réel. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous lisez un roman qui vous touche, quand vous voyez un film qui vous émeut, c'est parce que, en fait, vous avez l'impression que c'est vrai, vous êtes dans l'histoire. L'histoire a une telle force de restitution que elle vous plonge dedans. Et en fait, c'est ça que les historiens, les archéologues essayent de faire. C'est finalement retrouver une certaine vérité du passé, ou en tout cas, ça ne peut être qu'une vérité qui nous parle. Donc, c'est pas la vérité du passé tel qu'il était en lui-même qui nous échappe. On n'était pas là, et je pense que culturellement, c'est tellement loin de nous que ça nous serait totalement étranger. Ce qui est fantastique, c'est que même dans des choses extrêmement lointaines, loin de nous dans l'espace, puis loin de nous dans l'identité, on trouve toujours quelque chose qui nous parle. Et ce qui est formidable avec cette histoire, c'est que cette histoire de résistance, cette histoire de défaite, cette histoire de lutte contre la domination, contre l'envahisseur, c'est quelque chose qui ne cesse pas de nous parler. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est toujours réinterprété, mais c'est toujours d'actualité, cette histoire.
Laurent-Olivier, merci beaucoup. À découvrir donc César contre Vercingétorix, qui vient d'être publié aux éditions Belin, à lire absolument. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons bien entendu la chute de Rome.